Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur pour ce que nous venons de chanter. Oui, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Il y a une réalité et notre frère Antoine l'a très bien annoncé pour introduire ce temps. Peut-être que certains au milieu de nous pensent qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Mais nous avons chanté un plein pardon. Il y a un plein pardon. Je ne sais pas si on entend bien. Il y a un plein pardon qui nous attend, chacun d'entre nous. Et nous avons terminé par chanter ce cantique qui nous dit « Crois à sa miséricorde ». Elle est pour chacun d'entre nous, chaque jour, à chaque instant. Tant que Jésus-Christ sur le trône de la grâce. Et j'aimerais qu'on puisse prendre justement dans la parole de Dieu un passage qui nous montre bien cela. Et vous connaissez ce livre certainement, c'est le livre de Jonas. Nous allons lire le premier chapitre. Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Voilà, ce soir, j'aimerais m'arrêter avec vous sur l'histoire de Jonas. J'aimerais que l'on puisse se rappeler ce qu'il s'est passé à ce moment-là et qu'est-ce que Jonas a vécu, un homme qui a pu dire « la mort m'est préférable à la vie ». Voilà ce qu'a pu dire Jonas, un homme qui lui aussi ne croyait pas que Dieu pouvait pardonner, un homme qui refusait que Dieu pardonne. Et pourtant, Dieu va lui faire comprendre, au travers de ce livre, nous le voyons, va lui faire comprendre qu'il ne désire pas la mort de ses créatures, non bien au contraire, mais qu'il désire leur communiquer sa vie, son amour, sa grâce, sa bonté, et qu'il désire restaurer ceux qui sont brisés, qu'il désire éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. J'aimerais m'arrêter donc sur, on va pas voir toutes les étapes de la vie de Jonas ce soir. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces quatre chapitres, mais simplement sur ce qui est venu sur mon cœur. Et j'aimerais qu'on s'arrête plus particulièrement sur le premier chapitre et voir le second aussi. Voyons donc dans le premier chapitre que la parole de l'Éternel va être adressée à Jonas. Jonas connaissait Dieu et Dieu va lui parler, va lui donner un ordre, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Aujourd'hui, on pourrait se dire, on pourrait se poser la question, comment Dieu voit notre ville? Comment Dieu voit cette ville? La ville dans laquelle nous sommes? Comment vous voyez la ville de Toulouse? Dieu voit. Il voit exactement comment sont les habitants de chaque ville. Il connaît le cœur de chacun et il a vu la ville de Ninive. Il a vu sa méchanceté. La Bible nous donne de comprendre que la méchanceté est surtout et premièrement, en fin de compte, le rejet de Dieu, le refus de Dieu, le refus d'obéir à Dieu. Dieu parle souvent des méchants dans la Bible. Et quand il parle de méchants souvent, c'est par rapport à des personnes qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, qui ne veulent pas lui obéir. Et donc, c'est dans ce sens-là que Dieu voit la méchanceté dans le cœur de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, Toulouse, est-ce que c'est une ville méchante, gentille? C'est pas vraiment la question, mais en fin de compte, quand on voit justement la définition de ce qu'est la méchanceté aux yeux de Dieu, on peut se dire qu'en fin de compte, oui, la ville de Toulouse est une ville qui, aux yeux de Dieu, est méchante. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas une ville dans sa grande majorité qui obéit à Dieu, qui se soumet à Dieu, qui a ce cœur ouvert, attaché à Dieu. Dieu voit cela. Et il a eu, la volonté d'interpeller cette ville. Dans sa grâce, dans son amour, il a choisi Jonas pour cela, pour qu'il puisse aller appeler cette ville à la repentance. Et nous voyons donc Jonas, lui, après avoir reçu cet ordre de Dieu, s'est levé pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Et nous voyons à plusieurs reprises, cela nous est répété dans ce chapitre, il s'en est allé loin de la face de l'Éternel. Ce soir, où te situes-tu ? Est-ce que tu es près du Seigneur? Est-ce qu'il y a une certaine distance qui s'est établie avec le Seigneur? Est-ce que tu es loin de la face de l'Éternel? La Bible nous montre que, oui, on peut être loin de la face de l'Éternel tout en connaissant Dieu. On peut être loin de la face de l'Éternel tout en venant régulièrement dans une église. La Bible nous montre qu'on peut être, loin de l'Éternel par nos choix. Et par le choix justement de lui désobéir. Et c'est le choix qu'a fait Jonas. Il a désobéi à l'ordre de Dieu, à ses commandements, et il s'en est allé loin de la face de l'Éternel. Et ça a eu des conséquences. Des conséquences qui, par la grâce de Dieu, ont été limitées, mais qui auraient pu être bien plus graves, et qui parfois, dans certaines situations, sont bien plus graves. Nous voyons que Dieu a choisi Jonas dans un seul but, c'était pour le sauver, mais pour qu'il puisse sauver aussi, pour qu'il puisse amener des paroles qui seront conduites par Dieu, et pour que cette ville puisse être sauvée. Et c'est là le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Et Dieu est ce Dieu qui veut toucher nos cœurs, nous donner d'être sauvés, et il a un plan, un projet pour tous ceux qui nous entourent. Nos voisins, nos proches, notre famille, nos amis, nos collègues de travail. Il a un plan qui s'élargit toujours autour de là où il nous a placés. C'était là ce pourquoi Dieu a choisi Jonas, afin qu'il puisse lui aussi amener cette bénédiction autour de lui. Et nous voyons cela dans plusieurs passages de la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 16. Voyons un autre passage. Nous voyons un homme qui, lui aussi, était à la porte du suicide. Je rappelle que Jonas était aussi à désirer la mort mais préférable à la vie. Et dans ce passage, dans Actes 16, verset 25, nous voyons un homme qui est aussi vraiment à la porte de se suicider. Il nous est dit « Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Il tira son épée et allait se tuer. Mais Paul cria d'une voix forte « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» C'est une bonne question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Que faut-il que je fasse pour être libéré ? Que faut-il que je fasse pour trouver la solution à mon problème ? Paul va répondre simplement avec Silas et lui, ils vont lui dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voyons le but de Dieu de sauver et d'élargir cette grâce à tout ce qui entoure eh bien, la personne qu'il désire interpeller. Et les marins sur ce bateau, ceux qui étaient là avec Jonas, je reviens à ce passage, où nous voyons les conséquences justement d'être parti loin de la face de l'Éternel. Autant quand Dieu eh bien, choisit une personne pour la sauver dans sa volonté à ce but d'élargir cette grâce à tous ceux qui l'entourent, autant quand on choisit de s'éloigner de Dieu, de partir loin de la face de l'Éternel, de désobéir à Dieu, de le rejeter, eh bien, autant de la même manière, cette malédiction s'étend aussi, se propage sur ceux qui nous entourent. Et nous voyons donc les conséquences des choix de Jonas qui ont été portés sur tous ceux qui étaient là dans ce navire. Et il y a plusieurs situations comme cela dans la vie, nous amène à voir que quand une personne part loin de la face de l'Éternel, ça a un impact. Ça a un impact sur ceux qui l'entourent, sur sa famille, sur ses proches. Il y a des conséquences, il y a des blessures, il y a des risques, il y a des dangers, il y a des tempêtes qui peuvent venir, qui peuvent tout ébranler. Et il y avait une immense tempête à ce moment-là, une tempête qui était à deux doigts de briser ce navire. Mais dans cette situation, ces hommes vont poser une question aussi à Jonas, après avoir compris que le problème venait de Jonas. Ils vont lui poser cette question, verset 11, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» De la même manière que ce geôlier a posé cette question à Paul et Silas, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» De la même manière, ces hommes aussi ont posé cette question « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Et Jonas va reconnaître, nous le voyons au travers de ces quelques lignes, nous le comprenons, va reconnaître qu'il est pécheur, va reconnaître qu'il a péché contre l'Éternel, va reconnaître que c'est lui le fautif, va l'accepter, ne va pas rester dans un déni, ne va pas rester dans une obstination, une rébellion par rapport à Dieu, mais va accepter, va reconnaître qu'il est pécheur et va donner la conséquence du péché à ses marins, va leur donner de comprendre la conséquence du péché. La conséquence du péché, c'est la mort. C'est ce que nous dit la Bible. Et Jonas, à ce moment-là, va accepter la mort. Jonas, à ce moment-là, va accepter d'être condamné. Il va dire « Jetez-moi à la mer ». Et la mer se calmera. Je le dis, oui, c'est ce que la Bible nous dit. Romains 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort ». La Bible nous parle clairement et elle nous donne de comprendre que nous sommes tous pécheurs, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que nous avons tous péché, que nous avons tous désobéi au commandement de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Jésus-Christ a pu résumer la loi entière avec deux commandements, Il a pu la résumer avec ces deux commandements qui nous disent « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. » Et aujourd'hui, on pourrait se poser cette question « Est-ce que dans ma vie, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, j'ai aimé Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon âme ? Est-ce que j'ai obéi à ce commandement ?» Nous avons tous failli à ce commandement. Nous sommes tous passés à côté. Et la Bible nous donne de comprendre que si nous péchons contre un seul des commandements de Dieu, nous sommes coupables envers tous. Nous sommes coupables. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, et béni soit Dieu pour ce mais, il nous dit que la vie éternelle, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et il nous donne cette grâce, oui, d'être pardonné. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos bonnes œuvres, mais c'est seulement par sa grâce. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce que Dieu désire. Ce n'est pas que le méchant meure, comme nous dit Ézéchiel 33, verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» C'est pour chacun d'entre nous, cette parole, l'Éternel. Voilà ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et dans cette situation, dans la situation de Jonas, c'était là aussi la volonté de Dieu. Ce n'était pas que la ville de Ninive meure, mais qu'elle change de conduite et qu'elle vive. Ce n'était pas que Jonas meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà la grâce de Dieu, voilà son immense amour, voilà cette bonne nouvelle qui est encore pour chacun d'entre nous ce soir. Et c'est ce que Dieu a manifesté dans la vie de Jonas, c'est l'expérience qu'il a pu faire. Dieu a fait intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas a été jeté à la mer. Et Dieu a fait venir un grand poisson pour sauver Jonas, pour l'engloutir. Alors beaucoup de personnes se moquent de ce passage. Beaucoup de personnes tournent en ridicule cette histoire, justement parce qu'ils ne saisissent pas la grâce de Dieu, ils ne saisissent pas son amour, sa bonté, ils ne saisissent pas sa toute-puissance. Si nous voyons Dieu être le maître de cette tempête, des éléments de la nature, quand nous considérons que Dieu est le créateur du ciel, de la terre, de tout ce qui s'y trouve, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est pour Dieu que d'envoyer un poisson pour engloutir un homme ? Il a tout pouvoir, à lui tout est possible, il peut tout. Et c'est comme cela que nous acceptons ce passage avec foi, le reconnaissant comme étant véritique, non pas comme étant une illustration d'une vérité spirituelle, mais comme étant quelque chose qui s'est réellement passé. Ça a été l'expérience de Jonas. Il a été englouti par ce poisson, par la grâce de Dieu, afin qu'il puisse, oui, dans ce poisson, dans le ventre de ce poisson, se repentir. Et il y a cette prière de repentance qui est la solution, qui est la solution pour chacun d'entre nous afin de saisir la grâce de Dieu. Et on voit cette prière exemplaire qui est dans ce chapitre 2 et on peut la lire ensemble. Il dit à partir du verset 3, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. » Et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quelle grâce ! Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, oui, qui est lent à la colère. Et nous le voyons au travers de ce passage. Nous voyons ce miracle que Dieu a opéré dans la vie de Jonas pour qu'il soit sauvé. C'est un miracle. Le poisson, ça s'explique pas. Il y en a certains qui vont chercher à expliquer par des lois naturelles que ça pourrait être possible. Mais le poisson, c'est un miracle. Et pour chacun d'entre nous, Dieu a fait un miracle. Il y a un miracle qui dépasse tous les miracles, qui dépasse largement le fait qu'il y ait un grand poisson qui ait avalé un homme. Le miracle de tous les miracles. Nous trouvons ce miracle dans Matthieu chapitre 12 verset 40. Nous voyons justement des hommes qui ont demandé à Jésus un miracle. Comprenons ce miracle dans ce passage. Matthieu 12 verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Et là encore, c'est justement quand Jésus dit « une génération méchante », il parle bien de cette attitude de rejeter Dieu, de ne pas lui obéir, d'être rebelle à sa parole. Une génération méchante et adultère, un adultère aussi spirituel, un attachement à des choses vaines, des idoles. C'était là l'attitude de ces hommes qui lui demandaient un miracle. Voilà, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Amen. Voici, il y a ici plus que Jonas. Nous avons chanté tout à l'heure ce cantique qui nous disait que Jésus est parmi nous et que son regard s'abaisse sur nous et qu'il nous aime tous, qu'il veut nous bénir tous, qu'il veut nous sauver tous. Et il y a une réalité. Il y a ici ce soir, dans ce lieu, plus que Jonas. Il y a un miracle qui dépasse le miracle de ce grand poisson qui a avalé Jonas. C'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour chacun d'entre nous. Le fait que Dieu se soit fait homme. Le fait que Dieu soit venu sur cette terre en la personne de Jésus-Christ, non pas pour condamner, mais pour sauver, pour libérer, pour non pas pour juger ce monde, mais pour lui donner d'être justement pardonné, gracié. Et Jésus-Christ a tout accompli pour cela. Il a marché dans l'humilité en tant que le simple homme. Oui, Dieu fait homme. Est venu sur cette terre. Voilà le plus grand des miracles. Et ce miracle a été à son apogée quand Jésus-Christ a accepté volontairement de mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, de donner sa vie en sacrifice pour nous. Lui, le Dieu vivant, lui, le Dieu saint, lui, le Dieu d'amour, est venu sur cette terre et est mort en sacrifice pour nous donner la vie. Voilà le plus grand des miracles. Voilà la grâce de Dieu encore pour chacun d'entre nous ce soir. Voilà ce grand miracle qui nous donne le pardon de Dieu, qui nous donne d'être réconciliés, qui nous donne d'être restaurés, qui nous donne de pouvoir sortir des ténèbres et devenir dans sa lumière. Nous l'avons lu ensemble. Ninive s'est repentie et a été sauvée. Jonas s'est repenti et a été libéré de ce poisson. Ça a été son expérience. Ce soir, Dieu veut te donner de faire cette expérience à toi aussi. Et la démarche est la même pour chacun d'entre nous. Il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Il nous annonce à tous que nous avons à placer notre foi en lui, notre confiance en lui, à nous approcher de lui, à non pas partir loin de la face de l'Éternel, mais à nous approcher de lui. C'est ce qu'il veut et il nous appelle à cela, à nous approcher de lui, à saisir sa grâce, à saisir son pardon, à le recevoir. Simplement ce soir, eh bien, tu peux le recevoir. En ouvrant ton cœur, justement, en ayant cette démarche de foi, en criant à Dieu comme Jonas. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ce soir, tu peux faire cette prière. Tu peux, oui, te tourner vers le Seigneur, quelle que soit ta situation, jusque là où tu es allé dans ta démarche en allant loin de la face de l'Éternel. Ce que Dieu attend, c'est cette prière de repentance. Il est prêt à l'écouter quand il y a une sincère repentance, il y a un plein pardon. La Bible nous l'assure et il nous donne de recevoir ce pardon. Crois à sa miséricorde. Elle est pour toi ce soir. Elle a été pour le peuple de Ninive. Elle a été pour Jonas. Mais dans la fin de sa vie, Jonas a eu du mal à croire à la miséricorde de Dieu, a eu du mal à croire au pardon de Dieu. Et cette phrase que je vous ai dit, pour commencer, la mort m'est préférable à la vie, cette parole que Jonas a pu prononcer, eh bien, il l'a prononcé dans le dernier chapitre. C'est quand même interpellant de se dire, alors que Dieu lui a montré sa grâce pour lui, que lui ait du mal à la manifester, que lui ait du mal à la donner, à la partager. Jonas s'est irrité de voir cette ville être pardonnée. Et il y a des prisons, vous savez, on peut être, oui, abattu, on peut être au fond de l'abîme, justement par ce manque de pardon, par cette retenue à justement répandre le pardon autour de nous, la grâce de Dieu, sa miséricorde. Fais-tu bien de t'irriter ? Dieu a posé cette question à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter ? La mort m'est préférable à la vie. Jonas a pu répéter cela deux reprises. Il était amer. L'amertume remplissait son cœur et il désirait la mort. Et il y a cette réalité, oui, quand justement on n'accepte pas le pardon de Dieu, la grâce de Dieu, qui va bien au-delà de ce que l'on peut comprendre. La grâce de Dieu, c'est pareil, c'est un miracle, on ne peut pas la comprendre. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, pour chacun d'entre nous. Mais il nous donne de recevoir cette grâce. Alors ce soir, eh bien, saisissons-la. Pour chacun d'entre nous, ne doutons pas du pardon de Dieu, de ce grand miracle qu'il a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Ne le rejetons pas, ne la recevons pas, ne recevons pas cette grâce en vain. Mais par la suite, sachons, oui, eh bien la répandre autour de nous. Sachons pardonner. Parce qu'il y a une réalité, c'est que ceux qui ne pardonnent pas, comme Jésus nous l'a enseigné, ne pourront pas recevoir le pardon de Dieu. Et ce à quoi Dieu t'appelle, je le crois, c'est à pardonner. Alors ce soir, simplement, demande pardon à Dieu et pardonne, parce que Dieu t'a pardonné. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière ensemble. Seigneur notre Père, nous sommes là, oui, ce soir encore dans ce lieu, devant toi. C'est ta voix que nous voulons entendre, c'est ta voix que nous sommes venus chercher, ce n'est pas les conseils d'un homme, mais c'est ta pensée. Nous voulons, Seigneur, ce soir être attentifs à ce que tu nous dis, à ta parole. Nous voulons pas repartir de ce lieu comme nous sommes venus. Nous voulons vraiment saisir ce que tu veux nous donner. Ce que nous voulons, c'est ne pas rester loin de toi, mais c'est nous approcher de toi. C'est qu'il n'y ait aucun obstacle qui nous sépare de toi. C'est être, près de ton cœur. Être dans l'obéissance, parce que nous savons que c'est là la plus grande des bénédictions. C'est là le chemin de la vie, le chemin du repos, le chemin de la grâce, le chemin de la joie. Nous savons que c'est là ce que tu veux donner à chacun de tes enfants. Tu es ce Dieu qui pardonne. Tu as eu ce choix de vouloir faire grâce au peuple de Ninive. Et as-tu voulu le montrer, oui, à Jonas, qui n'a pas su le saisir. Jusque dans ces derniers chapitres, nous le voyons, dans cette difficulté à comprendre ta grâce, à saisir ton amour, ta bonté à l'égard des pécheurs. Ce que nous voulons, c'est, oui, non pas être dans l'incrédulité ce soir, non pas refuser ta grâce déjà pour nous-mêmes, la recevoir entièrement, pleinement. Mais ce que nous voulons, c'est aussi, Seigneur, oui, la pratiquer, vraiment la partager. Seigneur, ce soir, oui, tu parles à nos cœurs et je te prie de donner, Seigneur, à la personne qui a besoin, Seigneur, d'être libérée, d'être guérie, d'être restaurée, ce dont elle a besoin. Je te prie vraiment, Seigneur, de remplir de ton esprit et d'agir dans le fond de son cœur, Seigneur, afin que, oui, elle puisse pardonner, afin qu'il y ait dans son cœur ce choix de pardonner, ce choix de partager ton amour, ce choix de marcher près de toi, dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, nous te bénissons parce que, encore ce soir, tu nous as parlé. À toi soit toute la gloire. Amen.